partage sur le
site.
Non, mais je vais pas parler longtemps parce que ça va m'énerver. Bonsoir à tous et merci d'être là. Juste peut-être pour situer et expliquer pourquoi on a invité Pascal Waldschmidt et Jacqueline Miel, donc ils sont tous les deux maires et premiers adjoints de Beaumont en Ardèche, c'est qu'ils ont en 2005 initié un projet de logement sociaux, communaux, on vous laissera le soin de nous dire ce qu'ils étaient exactement, ce qu'ils sont exactement. Projet ambitieux pour une petite commune de 200 habitants. Il se trouve que nous, à Montjustin, on a un projet de logements communaux depuis 4-5 ans. Il se trouve qu'à Réan, il y a aussi un projet et que pour ces deux projets-là, on est accompagné par la preuve parfaite et par Patrick Pouchin, qui est ici présent, et par la Fondation de France, avec Valérie Pudel. Donc, Dédé, André en a parlé. C'est joli comme ça. Et qui nous semblait intéressant, en fait, d'avoir le témoignage à la fois d'élus qui ont porté un projet de logement qui s'est réalisé et de voir un petit peu, au bout de 15 ans, qu'est-ce que ça a pu changer, apporter à la vie d'un village rural, mais aussi avoir le témoignage de Patrick Bouchin qui, dans sa longue et belle carrière, a quand même beaucoup travaillé sur la question du logement social et que ça nous semblait pertinent, voilà, de faire une rencontre sur ce sujet-là, sachant que nos deux communes portent des projets complètement différents, mais on peut trouver quelques similitudes, en tout cas dans la réflexion des élus, et dans l'envie d'apporter quelque chose de nouveau et de faire de faire commune, d'habiter ensemble un endroit. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Pascal et à Jacqueline. Derrière, il y a des images de Beaumont, j'imagine, qui sont derrière nous. Merci encore d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Ça fait un moment qu'on voulait organiser cette rencontre. C'est tellement beau sous la pluie. Merci à vous en tout cas. Après, on peut intervenir, hein, le public, si vous avez des questions à poser.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis le maire de Beaumont, une petite commune du sud de l'Ardèche, hein, qui est située dans les Cévennes. C'est le bout des Cévennes, hein, puisque les Cévennes, c'est surtout le Gard, mais il y a une partie des Cévennes qui monte jusqu'en Ardèche. Donc c'est une commune qui est située entre 300 et 1000 mètres d'altitude, grosso modo, qui compte 250 habitants, mais avec cette particularité que c'est 250 habitants toute l'année, et en juillet-août, c'est entre 1200 et 1300. Pourquoi ? C'est parce que on a sur la commune 120 résidences secondaires, on a un petit camping de 40 places, on a des gîtes, des chambres d'hôtes, et parce qu'on est dans une région très touristique, et c'est un peu ça, j'appuie là-dessus, parce que c'est un peu ça qui est à l'origine de notre projet, parce qu'en fait, compte tenu de la demande touristique, il n'y a pas de marché, si vous voulez, du logement pour des habitants permanents. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un propriétaire privé, a un logement disponible, eh ben, il va le louer en gîte, parce que ça rapporte plus de le louer à la semaine, l'été, plutôt que de le louer toute l'année. Et nous, on a donc sur Beaumont, je dis 250, c'est 250 aujourd'hui, mais en 1970, on était tombé à 160 habitants. Donc la population remonte un peu, et elle remonte justement parce que la commune a créé des logements. Pourquoi elle a créé des logements ? Ben parce que on s'apercevait que la population vieillissait. On a la chance d'avoir encore une école, notre école communale. Et ben, on voyait le jour où l'école allait fermer parce qu'il n'y avait pas d'enfants et qu'on allait se retrouver tous des vieux. Et donc on s'est dit, pour faire venir des jeunes, la seule solution, c'est de faire du logement locatif parce que les jeunes n'ont pas les moyens d'acheter des vieilles maisons au prix où elles se vendent avec la pression du tourisme. Donc voilà, d'où notre décision de créer des logements locatifs. Bon, alors on a peut-être fait l'erreur un peu au début de parler de logements sociaux. Il faut savoir qu'en fait, logement social, c'est un terme un peu administratif. C'est-à-dire que quand on est dans le logement social, on a un agrément logement social de l'État qui donne droit à une TVA à 5%, qui donne droit à des prêts bonifiés. Mais en fait, logement social, il faut savoir que bon, ça implique que les futurs locataires, il y aura un plafond de revenus. C'est-à-dire que ceux qui gagnent beaucoup d'argent n'ont pas droit à un logement social, entre guillemets. Mais en fait, plus de 60, c'est entre 60 et 70% des Français sont dans la fourchette logement social. C'est-à-dire que 60 à 70% des Français ont droit à un logement social. Alors nous, quand on a commencé à parler de logements sociaux, il y en a qui nous disent « Oh là là, mais ça va être des cas sociaux, ils vont nous taguer nos voitures, enfin bon, voilà. » Ça n'a pas duré très longtemps, parce que quand ils ont vu arriver les jeunes qui sont arrivés dans ces logements, ils se sont dit « Ah, bah, ils sont vachement bien, ces jeunes. » Et donc, finalement, voilà, ça n'a pas été un problème. Et cette petite réticence qu'il y a eu au départ, en disant « Voilà, des nouveaux, etc. », finalement, au bout de quelques années, eh ben, y a un consensus absolu sur la commune. Tout le monde trouve que c'est très bien d'avoir fait ces logements et d'avoir accueilli cette population jeune, qui a permis donc de revitaliser la commune, parce que ça fait, on arrive maintenant au total à 14 logements communaux. Donc ça fait des jeunes, parce qu'en plus sur les 14, il y a un petit peu de rotation. Voilà, y en a qui s'en vont, il y en a qui achètent un bout de terrain sur la commune pour construire leur maison. Et donc finalement, il y a de la rotation, donc ça fait des jeunes qui arrivent, des enfants pour l'école, et notre école se maintient à une vingtaine d'enfants en permanence. Et donc pour l'instant, elle n'est pas menacée de fermeture. Voilà, alors on a eu la chance de rencontrer Valérie Cudel, donc, qui est médiatrice de la Fondation de France, et qui nous a proposé de bénéficier d'un programme qui s'appelle Programme Nouveau Commanditaire. Bon, c'est un terme un peu barbare pour dire que le commanditaire, c'est celui qui commande, hein, qui demande, qui commande une œuvre. Et donc, ça permet d'aider des associations, des communes, peut-être Valérie qui en parlera mieux que moi, à faire appel à des artistes ou à des gens qu'on n'aurait pas pu, on n'aurait pas eu les moyens tout seul de faire venir. Et donc, on a eu la chance de travailler avec Patrick Bouchain et puis son ombre, Loïc Julienne. Et donc, ils sont architectes à Paris et avec qui on a vraiment eu tout de suite, le courant est tout de suite passé entre nous sur la conception de la façon de travailler, la façon de faire émerger ce projet. Parce que notre projet donc, a un certain nombre de particularités innovantes qui viennent en bonne partie de Patrick, mais aussi un peu de nous. C'est que d'abord, premier principe, c'était de dire on associe les futurs locataires à la construction du projet. C'est-à-dire que nous, on a choisi donc les locataires avant de commencer à construire. Donc les futurs locataires, ben, c'est eux qui ont décidé de l'orientation de leur maison sur le terrain, parce que comme le terrain est orienté sud-est, ça c'était pas évident. Donc il y en a qui ont choisi sud, sud-est, bon. C'est eux qui ont choisi aussi la couleur des toitures, c'est eux qui ont travailler avec l'architecte pour l'aménagement intérieur, c'est-à-dire ceux qui voulaient des petites chambres, un grand séjour, enfin voilà, c'est eux qui ont, avec l'architecte, conçu le plan, l'aménagement intérieur de la maison. Et puis, il y avait aussi un côté, qu'on a voulu, un côté autoconstruction, c'est-à-dire qu'on a demandé aux futurs locataires de participer un peu au travail du chantier. Donc, c'est eux qui ont posé tout le bardage extérieur. C'est eux qui ont monté les cloisons à l'intérieur, qui ont fait les peintures. Nous, on fournissait les matériaux, la peinture, tout ça. C'est eux qui ont fait le travail. Et c'est un moyen que les gens s'approprient leur logement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un truc qu'on leur donne clé en main, où on habite là, puis quand on s'en ira, on s'en va. Mais ça leur, voilà, ils ont le sentiment qu'ils sont chez eux, dans une maison à laquelle ils ont participé, dans la conception, dans la fabrication. Et pour nous, c'est important parce qu'une petite commune comme nous, on n'a pas de personnel technique pour gérer beaucoup de logements. Et donc, c'est important que les locataires, ils respectent leur logement, hein, et qu'ils fassent attention, qu'ils l'entretiennent, ils le soignent et puis qu'ils nous préviennent dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de laisser se dégrader. Donc, c'était un côté important pour nous. Ensuite... Il y avait, je pense que Patrick en parlera, Il y avait donc cette conception aussi de dire qu'un chantier, c'est pas juste ben voilà, interdit au public et puis il y a des maçons, des artisans qui travaillent, mais l'idée d'en faire un peu une fête culturelle, et donc toutes les réunions de chantier étaient ouvertes aux habitants de Beaumont, ils pouvaient venir comme ils voulaient. Et ça se terminait toujours par une espèce de petite fête, hein, on buvait l'apéro ensemble, il y a même eu une fois où le couvreur a amené un cochon grillé, on a mangé tout le cochon ensemble, enfin voilà. Chaque réunion de chantier était un peu une fête. Et finalement, grâce aussi à l'art de Loïc Julien de gérer un chantier, les artisans se sont investis dans ce chantier bien au-delà du simple marché administratif qu'ils avaient signé. Et c'est vrai que ça a été une très belle aventure. Alors, je dois préciser que... officiellement, le logement social, hein, je vous ai dit, c'est une définition un peu administrative, mais ça impose des règles. Et notamment, il y a des règles assez précises pour le choix des locataires. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas les locataires comme on veut, il faut respecter un ordre, tout un tas de règles, avec une commission spéciale départementale. Bon, nous, on n'a pas fait ça, quoi. C'est-à-dire que... Pourquoi ? C'est parce que, si vous voulez, chez nous, il n'y a pas une usine où on peut aller travailler, se faire embaucher. Donc, pour habiter à Beaumont, eh ben, il faut créer son emploi. Ou avoir l'idée d'un emploi précis, voilà. Et donc, en fait, il nous fallait choisir des gens qui avaient un projet. Hein, ben, voilà, et pas seulement des gens qui se disent, tiens, ben, on va aller habiter là, puis après on cherchera du boulot. Parce que là, c'était un peu les enterrer, parce qu'on est quand même à 20-25 minutes de voiture de la première petite ville, donc du premier boulanger, du premier médecin. C'est vrai que des gens qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas trop quoi faire dans la ville, de les faire habiter à Beaumont, ce n'est pas une bonne idée, ça, c'est plutôt les enterrer que les aider, quoi. Donc c'était important pour nous, voilà, de choisir des jeunes qui avaient un projet et qui nous paraissaient assez dynamiques, disons, pour pouvoir se... créer leur activité et s'intégrer à la commune. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Je vais passer le micro à mon adjoint. Ils en diront bien plus.
Hein? Non, c'est bon. Je ne vais pas dire du tout le contraire de ce qu'a dit le maire, bien sûr. Hein? Je vais parler quand même un peu de... Parce que là, c'est un peu... Ça vous paraît un peu trop bien. À mon avis. Vous dites, mais comment ils ont fait tout ça? Bon, on a fait tout ça, on a réalisé tout ça, c'est vrai, mais on a mis 10 ans pour le faire, avec beaucoup de volonté, parce qu'on avait une volonté politique au sens noble, bien sûr, hein, pour que notre village vive, notre village prospère, que les gens y soient bien, etc. On sait très bien qu'à partir du moment où il n'y a plus d'école, ben les jeunes ne viennent plus. Et donc, il fallait absolument qu'on s'occupe de ce problème. Et en fait, on a mis 10 ans pour combattre aussi les administrations. Hein, parce que Pascal disait qu'on n'a pas respecté les normes pour le choix des habitants. Bon, bien sûr qu'on n'a pas fait. Mais d'abord, on avait quand même sollicité l'office HLM de l'Ardèche, hein, qui est venu à Beaumont, qui nous a écoutés, puis qui est parti en ricanant, hein, parce que non, eux, c'est pas possible, il faut une liste d'inscrits, on prend le premier avec des critères, avec enfin, tout ce que vous imaginez. Nous, on n'avait pas du tout envie de ça, et donc ben, on a fait autrement, et on s'est débrouillé tout seul, mais ça n'a pas été facile. Quand on écrivait, on disait que c'était le parcours du combattant. Hein. Mais il nous fallait absolument cet agrément social pour avoir des subventions par ailleurs et un prêt intéressant. Voilà. Et donc, pour les habitants, nous, on voulait que les habitants se connaissent, qu'on les connaisse, qu'ils nous connaissent et qu'ils se choisissent un peu ensemble. Bon, ça, c'était notre idée de départ. Et on a fait ça. On a fait plein de réunions, de cooptations, où chacun disait comment il envisageait de vivre au Bog. Mais vous imaginez bien que quand ça dure 10 ans, le groupe de départ, ben, il s'est petit à petit délité, il en est resté un peu. Et donc après, ben, on a fait comme d'habitude, on a inventé et on s'est arrangé quand même pour trouver sans problème, hein, parce qu'on a des demandes par-dessus la tête, et pour trouver des futurs habitants qui avaient envie de venir vivre au Bog ensemble. Ça, ça s'est fait petit à petit. Ce qu'on peut dire aussi pour la gestion d'une commune, pour ceux qui gèrent, hein, puisque c'est la commune qui gère les logements, c'est que nous n'avons aucune vacance. C'est pas nous. Il n'y a pas de vacances dans les locataires. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une maison qui reste inhabitée. Hein, quand on fait, je le disais tout à l'heure, quand on fait les états des lieux, en général c'est moi, on fait l'état des lieux de sortie et d'entrée. Et on a tellement de demandes, ce qui ne nous empêche pas de réfléchir au choix, de demander aux futurs locataires éventuels d'aller rencontrer les habitants pour voir s'ils se plaisent ou s'ils ne se plaisent pas. C'est arrivé. Hein, et voilà, et finalement, bon, avec nos 14 logements, on a toujours, toujours des locataires. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que... Patrick, qu'est-ce que je pourrais... J'ai oublié, tiens.
Non, je reviens aussi un peu en arrière par rapport à cette histoire de rencontre, parce que c'est une histoire de rencontre aussi. Donc Pascal a parlé de l'accompagnement de la Fondation de France. On peut reconnaître que sans ça, ça n'aurait pas pu se faire. En fait, moi, j'ai rencontré des élus alors que vous travaillez sur votre PLU. Et bon, il y avait des questions de fond qui se posaient. Donc c'est une rencontre parce que j'ai cru en ce groupe d'élus tout de suite. Mais aussi, vous aviez déjà, ce qui est quand même important de dire, je pense, c'est que vous aviez commencé avant même de penser, avant même de réfléchir à la commande de nouveaux logements et de logements plus contemporains, vous aviez commencé à réhabiliter, entre guillemets, les anciennes écoles des hameaux, puisqu'en Ardèche, là, c'est, bon, le village est constitué de hameaux, ça vous l'avez compris. Et donc, cette implication et cette réflexion, vous l'aviez déjà engagée. Là où, quand on s'est rencontrés, c'est que vous avez dit que ça pourrait être intéressant de réfléchir encore autrement cette question du logement, et finalement d'utiliser ce terrain que vous aviez acquis pour en faire un logement contemporain. Voilà, avec l'idée effectivement que des gens puissent participer, des premiers habitants puissent participer, ou en tout cas concevoir l'aménagement de leur intérieur, qu'ils puissent, voilà, certaines questions de base avaient été posées dans un cahier des charges assez large. Et que, effectivement, c'est le facteur temps qui a permis de faire tout ce chemin. Voilà, ça, je trouve que c'est important. Et aussi les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, mais ce que permet aussi ce système, entre guillemets, de commande, puisque, bon, on a évoqué, là, j'ai fait juste une parenthèse sur les nouveaux commanditaires, qui est un programme qui a été inventé il y a plus de 20 ans, donc au sein de la Fondation de France, qui croise, en fait, toutes les missions, qui ont été toutes les grandes missions que s'est assignée la Fondation de France, hein, première fondation de en France, et qui préconise la philanthropie, mais qui va toucher des questions de société, à savoir ce que tout le monde connaît, la question de l'enfance, la question de la précarité, la question de la vieillesse, de la maladie, de l'environnement, de l'habitat. Donc en fait, à travers ce programme de commande, l'enjeu pour François Hers, qui est à l'origine de ce programme, c'était de renouer, de rétablir le lien entre le monde, le citoyen, on dira, et les artistes. Au départ, c'était un projet qui visait plus le monde des arts plastiques. Et petit à petit, voilà, on est parti aussi sur des projets plus de factures différentes, donc d'architecture, aujourd'hui la musique, aujourd'hui avec des chercheurs. Donc il y a vraiment il y a quelque chose qui s'est étoffé. Mais c'était vraiment ce que permet ce programme, qui est quelque chose d'assez rare, c'est le facteur temps. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de se tromper, de repartir sur d'autres bases, et c'est vraiment ce qu'on a vécu à Beaumont. C'est pour ça que ça a duré 10 ans et qu'on a pu se permettre de travailler pendant 10 ans, voire plus. Voilà. Et ça, je tiens à le dire. cette question de, voilà, on va dans, on a commencé d'ailleurs à réfléchir avec un artiste, si on peut, et on s'est dit qu'avec cet artiste qui s'était mis à la question qui avait interrogé la question de l'habitat, on n'y arriverait pas. C'est un artiste qui était parti aux États-Unis et qu'on s'est arrêté. Et on a dit, est-ce qu'on continue ? Il y avait cette telle détermination des élus, j'insiste là-dessus, c'est une endurance, et qu'on a dit, bon, on va reprendre la commande et on va réfléchir, donc on échange et on propose à Patrick Bouchain de venir découvrir Beaumont. Voilà. Mais voilà, j'insiste un petit peu là-dessus parce que, comme dit Jacqueline, quand Pascal en parle, tout coule. Mais voilà, non, mais voilà, c'est une réalité et ça, c'est important de le souligner. Et qu'effectivement, dans ce processus, on est vraiment sur des questions aussi. C'est, aujourd'hui, on parle beaucoup de commun, mais c'est quelque chose qui est une réalité de vie, de projet. J'ai perdu le fil, là je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé. Bon, bref, en tout cas, c'est important de souligner qu'effectivement, ce collectif qui se met en place, parfois il est élargi, parfois il se réduit, mais qu'il y a un petit noyau dur que vous avez là, en l'occurrence, il n'y en a que deux, mais vous étiez deux, trois, vraiment à tenir cette commande jusqu'au bout. Voilà.
Ça peut paraître, quand on entend, ça peut paraître contradictoire. Même moi, quand je l'entends, cette histoire, je me dis, tiens, on raconte des choses, on raconte un peu des bobards. Parce que il faut toujours se remettre dans la simplicité. C'est vrai que ça paraît bizarre de dire on demande à des gens qui vont être locataires de choisir le logement qu'on va leur construire. Et puis après on dit ça dure 10 ans et on les perd. Alors on dit en fin de compte ça ne sert à rien. Vous voyez, mais en fin de compte c'est mieux de prendre quelqu'un qui a un désir de construire un logement et qui aide le commanditaire à voir ce que pourrait être un logement désiré par quelqu'un qui a un projet. Et cette personne, si elle s'en va, c'est presque mieux que si elle restait. Parce que sinon, ça serait trop endogène. Vous voyez, ce serait le castor qui, voilà, il fait tout, quoi. Et donc, c'est pas possible. Et donc, en même temps, il passe la main à quelqu'un d'autre qui, lui, n'est pas usé et frais et qui reprend le relais, c'est ce que dit Valérie, en compte, qui reprend le relais et qui revient rajouter quelque chose qui rend la première demande plus universelle. Oui, elle est moins identifiée, mais elle est quand même toujours chargée du désir d'une personne. Et puis après, bon, elle l'habite, et puis comme donc Jacqueline l'a dit, il n'y a pas de vacances, elle le quitte. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle le quitte en ayant peut-être habité la ville ou le village. Et donc en ayant habité dans de bonnes conditions un village, elle se sent socialement intégrée. C'est-à-dire qu'elle est donc... Elle a participé à cet ensemble social, à ce commun social, et elle franchit le pas suivant et elle dit « Et maintenant, je construis ma maison. » Vous voyez ? Donc, en construisant sa maison, elle va sûrement construire sa maison différemment par cette expérience qu'on a faite avec elle, voire même, on a des gens qui étaient au début pour faire leur logement et qui sont partis parce qu'ils trouvaient que c'était trop long, et qu'on a vu revenir après pour construire eux-mêmes leur logement dans ce village. C'est-à-dire que, vous voyez, ça a créé... C'est comme une école, c'est comme une sorte de vie sociale qui est une formation à vivre ensemble. Donc, habiter, c'est vivre ensemble. Habiter, c'est pas fonctionnel. C'est pour ça qu'on a raté tout le logement social, parce qu'on a cru qu'il suffisait de sortir les gens des bidonvilles ou éventuellement accueillir des gens qui venaient pour travailler chez nous ou des populations jeunes qui cherchaient un logement, on a cru que c'était fonctionnel. Alors, il y a une toilette, on fait caca, machin, c'est mieux d'avoir une douche, alors, hein, après une cuisine, on fait la cuisine, puis après on fait un séjour, parce que voilà, il y a un séjour, et puis après on fait une chambre, deux chambres, et on attribue, en fin de compte, quantitativement, sur un modèle qui est complètement idiot. Vous voyez, vous-même, vous l'avez fait, vous avez habité des maisons anciennes ou des logements qui ont déjà été habités par d'autres, vous aviez une idée de ce que vous vouliez pour habiter, et en visitant quelque chose, vous retournez complètement l'idée. C'est-à-dire que vous vouliez habiter en étage, vous habitez au rez-de-chaussée, vous vouliez un 3 pièces, vous avez un 2 pièces, parce que ce qui compte, c'est la lumière, l'acoustique, la température, l'odeur, et ainsi de suite. Et tout le logement social est déshumanisé, puisque le logement social, il est fait sur un modèle, comme s'il n'y avait qu'un seul modèle de vie, et il est attribué et il n'est pas choisi. Comment voulez-vous aimer quelque chose que l'on vous attribue et que vous n'avez pas choisi, et même quelque chose que vous ne pouvez pas échanger? Parce que vous ne pourriez même pas dire, bah, j'ai eu celui-là, j'ai pas de chance parce que voilà, j'étais sur la liste et tout, mais dès que je trouverai quelqu'un qui voudra changer avec le mien, je ferai comme une bourse d'échange, j'ai pas le droit, je perds et je retourne à la case départ. D'où le grand problème du logement social, où il n'y a pas de rotation, parce que quand on l'a, on le garde, donc on perd son emploi et alors on en trouve un autre ailleurs et on met 1 heure et demie de transport, mais on ne change pas de logement parce qu'on a peur en changeant de logement de le perdre. Et donc, moi, ça fait très longtemps que je pense que le petit contient le tout. Voilà. Et on me dit tout le temps, c'est pas vrai, le petit, c'est le petit, c'est le petit. Et moi, je pense que la petite unité démocratique, la commune, la plus petite des communes, elle contient le tout. Elle contient c'est quoi d'habiter ensemble, c'est quoi d'élire quelqu'un, c'est quoi, en fin de compte, voilà, de gérer un ensemble commun. Voilà. Et donc, j'ai toujours tenté, en effet, de toujours être dans le petit et de regarder qu'est-ce qu'il y a d'universel dans le petit. Et donc, pour moi, Beaumont a été un grand moment dans notre vie, parce que moi, je l'ai initié, et après, mon associé l'a continué. Parce que 10 ans pour faire 3 logements, il faut avoir envie, quand même. Il faut aimer le maire, son adjointe et Valérie Cudel, mais c'est comme avoir une amitié. Vous voyez, c'est mieux d'avoir une amitié avec un projet qu'une amitié voilà, pour aller faire, je ne sais pas, un voyage en Thaïlande, par exemple. Alors du coup, on a commencé à démonter, et Valérie a commencé à le dire, qu'est-ce qui empêche cette petite unité de choisir ses habitants? Parce que, en effet, dans les grands, on dit, si un maire choisit l'attribution du logement social, on appelle ça du clientélisme. Il le fait pour avoir des gens qui vont voter pour lui. Mais voilà, il y a des fois, on peut quand même rencontrer quelqu'un d'honnête, un maire honnête, et un habitant, un futur habitant, et avoir envie que cette personne habite. Alors du coup, c'est vrai qu'on a essayé de démonter qu'est-ce qui permettrait de ne pas passer par cette liste abstraite hein, qui passe par la préfecture et machin et tout, avec les quotas et machin et tout, mais qui dirait que une communauté élue choisit ses habitants. C'est le béaba quand même. Voilà. Alors du coup, si vous prenez un logement ancien et que vous réparez l'école et que vous bricolez un peu comme ça, et puis que vous trouvez quelqu'un, éventuellement même l'employé municipal, vous lui dites, j'en fais un logement de fonction, c'est un logement social. L'employé municipal, il a un revenu très bas, c'est mieux qu'il soit logé dans la commune, donc c'est un logement de fonction, mais c'est un logement social. Mais là, on peut le faire parce que c'est l'ancienne école, on l'a coupé en deux, on a fait des travaux soi-même, et ainsi de suite. Mais si on veut, on dit, bah, tiens, on a expérimenté, on est donc maître d'ouvrage d'un logement social, on dit, ah non, là, attendez, vous utilisez le mot logement social, il faut faire appel à un organisme de logements sociaux, ce que Jacqueline a décrit. Mais attendez, c'était la rigolade, parce que comment voulez-vous qu'un organisme, et là, vous ne le savez peut-être pas, mais le président de la République a décidé que maintenant, pour rendre rentables les organismes de logements sociaux, il faut avoir 12 000 logements sociaux. Donc les petits organismes qui gèrent très bien sur le plan social vont devoir grossir au prétexte que c'est une entreprise de gestion de l'immobilier. Peut-être que pour gérer de l'immobilier, au sens de le construire, il faut peut-être avoir une taille critique, si vous voulez, mais pour gérer du social, au contraire, il faudrait dire, on descend, il faudrait créer des multitudes d'organismes de logements sociaux qui n'auraient pas plus que 200 logements à gérer, par exemple, voyez, pour connaître les habitants et être dans un rapport direct avec eux. Alors on dit, et bien dans cette petite commune, on veut donc construire un logement social, on passe par un organisme, et l'organisme il vient et dit, attends, mais moi, en dessous de 100 logements, ou en dessous de 50 logements, je viens pas, ça m'intéresse pas, donc je m'en vais. Alors c'est un refus, deux refus, ça veut donc dire que habiter la campagne, dans une république qui est quand même une république égalitaire, il y aurait donc une différence qui ferait que on ne peut pas habiter un logement à loyer modéré, on va l'appeler comme ça, dans une commune, au prétexte que celui qui produit le logement social n'a pas été fait pour ça. Parce qu'en effet, les organismes de logements sociaux, ils ont été faits pour rattraper tout le retard du logement social. Mais quand on voit l'échec du logement social, on pourrait dire, tiens, on se trompe, on devrait regarder et donner une délégation à des collectivités locales pour qu'elles soient elles-mêmes logement social. Alors nous, au début, on n'osait pas trop le dire. Et puis, en fin de compte, en rencontrant des gens, on dit, mais si vous avez le droit, par défaillance d'un organisme de logement social, vous pouvez vous déclarer, vous, comme collectivité locale, comme ayant la possibilité d'être maître d'ouvrage. Mais il faut refranchir l'étape suivante, parce que quand on va chercher l'argent, parce qu'il faut, personne ne dit, ou personne ne sait, ou personne ne veut le savoir, le logement social, il est entièrement payé par son locataire. C'est pour ça que quand on détruit du logement social aujourd'hui, c'est un vol social. Le logement social, il n'y a que 10% qui sont donnés pour aider à la construction, et les 90% sont empruntés par l'organisme qui récupère par le loyer qu'il touche et qui rembourse donc le prêt à un taux bas et avec une TVA basse, mais qui rembourse donc le locataire. Au bout de 30 ans, il a payé son logement. Et donc, comment ? Oui, on va dire 30. Hein, je dis. Alors, du coup, on pourrait se dire, mais peut-être que dans le petit, c'est 35 exactement. Voilà. Enfin, d'accord. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est un petit problème, parce que comme c'est un retour sur investissement qui est un peu plus long que le retour normal sur l'immobilier normal, c'est un peu pour ça que le logement social n'est pas entretenu, parce que les organismes HLM, donc, attendent des fois d'être remboursés. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont contents de le détruire, parce que comme ça, comme au bout de 35 ans, il est en mauvais état, et donc tout l'ANRU, le renouvellement urbain, c'est un scandale, parce qu'en fin de compte, c'est au moment où le logement, peut-être, a une vie, il a été habité, il a été usé, une collectivité a eu du mal, avec beaucoup de difficultés, à vivre dans ses boîtes à chaussures, on dit, bon, table rase, on recommence, on fait autre chose, on fait des toits à deux pentes, et ainsi de suite. On fait des toitures à deux pentes. Et donc, du coup, on pourrait dire qu'on pourrait y rentrer, justement, et poser une couche sociale. Alors, quand une petite commune dit, moi, je veux loger, mais c'est ça qui était intéressant, c'est en ça que la Fondation de France et nos commanditaires ont débloqué la clé, c'est peut-on faire autre chose que de réhabiliter ? Parce que réhabiliter, c'est possible. Réhabiliter, éventuellement, l'handicapé ne peut pas y rentrer, l'isolation thermique n'est pas tout à fait conforme. Mais comme l'architecte des bâtiments de France ou comme la personne qui est responsable du bâtiment dit « Ah, oui, mais là, on accepte une toiture comme ça parce que c'est dans le paysage et tout, donc c'est pas aux normes, peut-être, logement social, mais c'est aux normes historiques. » Si vous dites « Je veux construire un logement neuf et je veux être moi-même organisme de construction », c'est impossible. Et donc, c'est en ça, si vous voulez, si on en parle ici, c'est cette opiniâtreté, mais qui est une opiniâtreté, non pas d'un obtus, ouais, d'une personne, c'est une opiniâtreté de faire de la politique. C'est ça, faire de la politique. C'est de dire qu'en fin de compte, on ne peut pas continuer à dire qu'il y a des maisons qui tombent en ruine, il y a des maisons qui sont un habitat indigne, ainsi de suite, dans des très beaux villages, il y a des maisons qui ne valent rien dans certains villages, il y a des maisons qui ne sont occupées qu'un mois par an dans des villages, et il y a des gens qui habitent très bien la France rurale, qui est quand même un des plus beaux pays d'Europe, quand même, et qui ne peuvent pas y habiter parce qu'on ne peut pas construire un logement à loyer modéré. Et donc, c'est cette opiniâtreté qui est donc politique. Et donc, moi, ce qu'on retiendrait avec Valérie, c'était cette... c'est en fait compte, c'est un mandat politique. Peut-on loger dans sa commune des gens qui vont permettre d'avoir un bon équilibre au niveau des âges, d'avoir un bon équilibre social et des gens qui habitent toute l'année. Alors, du coup, on a démonté. C'est pour ça que ça a été long. On aurait pu aller plus vite. C'est pour ça que si on le fait ici, on pourrait aller plus vite parce qu'on a... une expérience. Et c'est pour ça que quand Pascal le raconte bien, moi je trouve ça bien qu'il le raconte facile, parce que c'est mieux dans les histoires de raconter des belles histoires, quoi. C'est de dire, puisqu'on l'a fait, on peut le faire. Et donc il ne faudrait pas que, si on tente de le faire ici, il ne faudrait pas qu'on dise oui, mais on recommence, quoi. Social égale problème social, logement social égale esthétique dégueulasse, jeune bruyant, ainsi de suite. Enfin, on ne peut pas recommencer comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on avait même demandé à Pascal et à Jacqueline, puisque ils ont l'expérience, ils auraient pu nous aider à parrainer les opérations suivantes. De dire, en fin de compte, appuyons-nous sur les expériences et transmettons-les. Bah, faisons, arrêtons d'écouter tout ce qu'on nous dit qui est complètement faux. Alors du coup, lentement, ils ont pu emprunter. Mais pour emprunter, il fallait qu'il y soit cautionné. Et pour être cautionné, il fallait remonter un échelon pour avoir la caution soit du département, soit de la région, soit d'ailleurs d'un organisme qui existe, qu'on a découvert après, qui cautionne les emprunts. Parce que imaginons, parce que ça rejoint ce que Jacqueline a dit, imaginons qu'ils aient fait ça et qu'ils n'aient pas eu de locataire. Alors on a dit, bah voilà, vous êtes nuls. Mais comme ils avaient dit, on veut les locataires avant d'avoir construit, déjà, c'était de dire, bah, vous ne pouvez pas nous reprocher ça. Après, c'était, oui, mais si vous avez des locataires qui ne payent pas, mais non, on trouvera toujours des locataires. Et donc, il fallait être cautionné au cas où ils ne pourraient pas rembourser. Et donc, Jacqueline le dit, vous vous rendez compte, il n'y a même plus de vacances de quelques jours. Puisque même maintenant, Jacqueline me le disait tout à l'heure, elle fait faire l'état des lieux, non pas par un technicien.
Elle fait.
Non, tu m'as dit que tu faisais faire ça par le nouveau locataire.
Non, avec eux.
Voilà. Vous voyez, elle fait même une réunion où, en fin de compte, c'est le nouveau locataire qui aide le propriétaire à regarder dans quel état le locataire précédent a laissé le logement. Mais c'est une forme de participation. C'est ça une démocratie participative. Ce n'est pas une réunion publique où on donne son avis et tout le monde est mécontent. C'est une façon de remettre en mouvement que ça appartient à la collectivité, que quelqu'un le laisse avec des traces, et ainsi de suite. Et après, pour ceux qui disent, eh ben oui, voilà, l'autre, il voulait un grand séjour, et moi, je veux un petit séjour parce que j'ai un bureau où je travaille. Mais toute l'architecture n'est faite que de transformation. Et tout le défaut du logement social, c'est que quand vous le transformez et que vous le quittez, vous devez le remettre dans son état d'origine. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que toute personne qui laisserait une trace dans un logement social, eh ben, il est pénalisé par cette trace et il doit le remettre dans son état d'origine. Alors que nous, on avait tendance, on n'y est pas arrivé, peut-être qu'on y arrivera ici, c'était de dire peut-être que la personne qui fait les travaux, les travaux qu'elle fait ou le temps qu'elle amène dedans, ça a une valeur, un peu comme un pécule ou comme un épargne ou comme, en fin de compte, un travail dont qui serait en dehors de la valeur spéculative, mais qui pourrait dire, bah, toi, puisque voilà, tu as plutôt fait la peinture et tout, bon, c'est un loyer en moins ou ainsi de suite, ou quand tu partiras, ce sera un petit pécule. Mais pourquoi la bourgeoisie fait ça? Quand la bourgeoisie, elle loue, et qu'il y a un étudiant qui arrive, il dit, attends, c'est dégueulasse, il dit, bon, je repeins, bah, ça m'arrange, tiens, repeins, je te fais sauter un loyer. Pourquoi, dans certains cas, ça paraît normal, et d'un seul coup, il y a quand même 6 millions de logements sociaux, donc il y a 18 millions de personnes qui sont concernées, donc c'est un tiers des Français, pour eux, habiter, c'est pas comme pour les autres. Et donc, moi, je pense que, comme je crois que dans le petit, il y a le grand, ou dans le grand, il y a le petit, c'est peut-être mieux de prendre de petits plutôt que d'attendre de grands soirs qui changera tout, mieux de prendre de petits tous les jours, et de dire, bah tiens, ce sujet-là, je ne le laisse plus passer. Alors après, il y a eu les marchés. Vous le savez, il faut faire appel à la concurrence. Alors, on accepte tous, on dit, bah, c'est formidable, la concurrence, on va avoir le meilleur prix. Et vous vous rendez compte que l'Europe nous oblige donc à faire une concurrence européenne. Alors, vous voyez, le serrurier que vous avez en Italie, qui est moins cher, parce que d'un seul coup, il est dans la merde où il n'a pas payé la TVA et tout, il répond à l'appel d'offres, il est serrurier à Beaumont, et puis un jour, les volets ne marchent pas, vous appelez le mec, il dit, d'abord, en général, il n'existe plus, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, le mec, c'est une boîte aux lettres. Et donc, du coup, nous, on a réinventé un appel d'offres qui donne du travail localement. C'est quand même logique. Si vous voulez, je veux dire, on va construire un logement, le plombier, le couvreur, le machin.
Le charpentier.
Attends, mais arrête de me critiquer tout le temps. Alors, en même temps, on va faire comme Macron. En même temps, il faut ramener du sang neuf, y compris pour des nouveaux locataires. Et donc, il faut prendre du local et ramener un étranger. Parce que c'est lui qui, il faut, dans une proportion équilibrée, il faut ramener un étranger qui éventuellement donc, va ramener un savoir ou un comportement et qui va peut-être redonner un élargissement. Alors du coup, en effet, la seule personne qu'on a amenée, c'est un charpentier, parce que c'était un énorme problème, on voulait construire des maisons en bois, et comme là-bas les routes sont toutes très sinueuses, on ne pouvait porter que des petites pièces, on ne pouvait pas porter des grandes pièces. Et l'économie, c'est de porter quand même des grandes pièces bois qu'on préfabrique. Et donc, du coup, on travaille avec quelqu'un avec qui on avait fait déjà des maisons et des équipements culturels, qui est au Mans, et qui, lui, a décidé de venir ici pour expérimenter comment construire dans une autre région que la sienne. Et c'est vrai qu'on a eu plein d'histoires, quoi.
Le chantier était génial.
Non, mais même, il y a quelqu'un, si vous voulez, de Beaumont, qui voulait un logement, et qui a vu qu'en effet, il avait eu une formation de menuisier, et quand il a vu ce beau travail qu'un charpentier fait, entre une charpente et de la menuiserie, vous voyez, il a eu envie de reprendre son métier. Alors, je vais arranger un peu aussi. Imaginez, dans un logement social, quelqu'un qui dirait, ben, en fin de compte, je travaille dans mon logement. Interdit. Ça veut dire qu'on dit, il faut être éco, il faut être auto-entrepreneur, et, mais tu ne peux pas travailler dans ton logement social. Alors, en général, on le dit à celui qui est dans un logement social. Alors, si, en effet, c'est de l'informatique, ça ne se voit pas, si vous voulez. Mais imaginez quelqu'un dans un logement social qui ferait une menuiserie. C'est interdit. Alors on dirait, c'est interdit parce qu'il y a peut-être le feu, c'est interdit à cause du bruit, et ainsi de suite. Et on se plaint, vous voyez, qu'il n'y a pas de diversité sociale. Et donc là, on a quelqu'un qui a modifié, en fin de compte, en cours de route, l'aménagement de cette maison en disant, je vais y installer mon atelier de menuiserie. Et donc, voilà, ça, c'est un vrai projet. Et peut-être même qu'après, quand il partira, peut-être que quelqu'un voudra habiter un atelier de menuiserie. Où veulent habiter les bobos et machin ? Ils veulent habiter des lofts, non ? J'en pense du ça. Alors on se demanderait pourquoi quelqu'un de modeste ne voudrait pas habiter dans un logement social qui serait un ancien atelier de menuiserie ou de couture. Allez, donc moi je pense que, je ne sais pas si on fera des choses ensemble, mais bon, comme moi, mon meilleur ami qui est ici présent habite à Vachères, et que donc c'est un plaisir que d'y aller. Et donc je me suis dit, comme je viens le voir, ou que j'ai envie même peut-être de mourir à Vachères, comme on dit, je me suis dit, ben voilà, j'aimerais bien faire quelque chose à Vachères. Bon, pas possible parce qu'il y a eu des logements sociaux de fait. Après, à Montjustin, bon, j'ai un ami qui habite Montjustin. Bon, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose à Montjustin. Donc, il faudrait le vivre comme ça. Il ne faut pas le vivre comme si on allait imposer du logement social et que, quoi, des étrangers, des machins, on va tout abîmer. C'est, peut-on réfléchir ensemble ? Est-ce possible ? Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Mais au moins, on pourrait, en répondant à la question « est-ce possible ?», prendre du plaisir. Et non pas de l'opposition, pour dire, bah, tiens, voyons si c'est possible de vivre ensemble. Voyons si c'est possible de construire dans un village un logement que moi j'appellerais vernaculaire contemporain. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui restaure une église, il faut qu'il fasse la toiture avec la pierre de l'église telle qu'elle a été construite. Donc il a le droit au réemploi, lui. L'architecte des bâtiments de France, ou l'architecte en chef, il a droit au réemploi. À Versailles, l'architecte, il a même le droit de faire une toiture en plomb. Le saturnisme, ça compte pas pour lui. À Notre-Dame, on a sorti une loi spéciale pour pouvoir construire, reconstruire Notre-Dame, comme en 1100. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on ne pourrait pas la reconstruire avec les lois actuelles. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas se dire, tiens, on va construire dans un logement, comme ça a été le fait des fois, on a relevé des pierres, donc on a fait du réemploi, on a relevé des pierres à l'idée que l'on se faisait d'un village médiéval ou je ne sais pas quoi, mais on l'a quand même adapté au nouveau mode de vie. Et aujourd'hui, on aurait quelqu'un qui nous dirait non, les fenêtres doivent être verticales et non pas horizontales, je ne sais pas quoi, on doit avoir un doublage par l'extérieur, et ainsi de suite. Il faut absolument qu'on retourne la situation dans laquelle on nous met. C'est schizophrénique. C'est tout est côte à côte. Vous voyez, la norme handicapée, formidable, mais faut-il raser tous les villages de Haute-Savoie, par exemple? C'est impossible d'accéder à son logement en Haute-Savoie avec la norme handicapée. Mais il y a des handicapés qui habitent des villages de Haute-Savoie. Non, mais ce n'est pas la norme appliquée à la lettre. Il y a des gens qui habitent des granges et qui se chauffent avec un poêle. La grange n'est pas isolée et le rayonnement du poêle, avec la perte de la thermie, consomme moins éventuellement qu'un immeuble qui a beaucoup d'inertie, qui prend toute la chaleur et qui la restitue lentement. Il faut arrêter. Et donc, ce n'est pas le but de la soirée de ce soir de faire un manifeste, mais on pourrait faire le manifeste de Rayanne. On va dire ce à Rayanne en 2000. En quelle année ? Hein ? Avant les élections municipales, on prend la décision de construire autrement. Parce que même une fois, j'ai vu clair. Moi, j'ai voulu m'occuper des logements de la rue d'Aubagne à Marseille. Vous vous rendez compte qu'une commune aussi riche que Marseille a laissé des marchands de sommeil s'installer donc dans des rues. Et tout le monde voyait dans quel état étaient ces logements. Tout le monde, y compris les propriétaires qui venaient, les locataires, et il y avait de tout niveau, ce n'était pas des plaignants désagréables. Ils s'effondrent, les rues, là, on se croirait à Grozny, il y a des glissières de sécurité en béton pour ne pas aller, pour passer là. Il y a encore des immeubles habités, il y a des enfants donc, qui ont eu une génération, peut-être 10 ans, dans des rues qui sont sans voiture. Alors du coup, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut Regardez Rayane. Claire, mettons, elle a reçu du préfet une lettre. Parce que le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Ça tombe. Habitat indigne, il faut se couvrir. Alors on envoie une circulaire à tous les maires. Vous ne devez plus avoir d'habitat indigne et de gens qui habitent un habitat indigne. Vous êtes maire de Rayane. Vous recevez ça. Il y a des maisons anciennes qui ne sont pas en parfait état avec des gens âgés qui habitent dedans et tout. Vous faites quoi? Vous expulsez tous les gens et vous faites de ça des maisons? Ou vous prenez le risque de les maintenir dedans, voire de les réparer, mais peut-être pas comme les normes. C'est insupportable. Donc on pourrait dire ça, tiens, à Rayane, on pourrait dire qu'il y a un habitat indigne et qu'on peut le réparer en dehors de la norme, par exemple, pour que la personne âgée qui habite dedans continue d'habiter, qu'on garde l'histoire de la norme. Et qu'il n'y ait plus de pavillon à la périphérie. Bon, super bien.
Dans ce cheminement et dans
je voulais pas travailler avec Valérie parce qu'elle me critique tout le temps.
Oh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pas toujours être d'accord. non, mais il y a quelque chose qu'on a oublié dans notre cheminement qui a été quand même qui a provoqué un moment d'arrêt, c'est que on parlait de réglementation et de normes, c'est qu'au moment une fois que le permis de construire a été posé et que vous êtes rapproché de pour l'agrément de logement social, pour donc avoir ses prêts, etc., on s'est aperçu que les zones rurales n'étaient plus éligibles pour pouvoir construire du logement social. Donc, ça a suscité un arrêt, et il a fallu ruser, hein, vous pouvez en reparler, je trouve que c'est important, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les zones urbaines étaient privilégiées, en tout cas en Rhône-Alpes, et Beaumont, même si ce village avait une politique de logement depuis 10 ans, n'était plus éligible alors qu'il y avait un projet innovant pour pouvoir, n'était plus éligible pour construire ses maisons et bénéficier du logement social et de certains prêts. Donc ça a été une année et demie, 2 ans d'arrêt pour pouvoir enfin bénéficier des prêts, etc., et pouvoir monter les dossiers pour avoir ces... Bon, vous pourriez en parler, parce que là, j'en parle mal. Mais je trouve que c'est important de parler de ce déséquilibre par moment.
Et est-ce que tu peux parler de celui qui voulait un sauna?
Alors oui, bon, c'était trop beau ce que j'ai dit au début. Je vais quand même raconter un peu tous les obstacles qu'on a eus. Alors, donc le premier, ça a été que, pendant la évoqué Jacqueline, que l'office HLM qu'on avait sollicité n'a pas voulu venir construire chez nous, parce que c'est trop petit, c'est trop loin, etc. Donc, bon, ben on s'est dit, on va être maître d'ouvrage nous-mêmes, bon, ce qui ne se fait pas souvent, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est énormément de travail, et qu'un maire, c'est pas forcément son métier d'être maître d'ouvrage, enfin, c'est tout un boulot. Bon, maintenant, ça a un peu évolué, grâce à moi d'ailleurs, sur l'Ardèche, l'office HLM propose aux communes une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc l'office HLM ne construit pas directement, mais il aide la commune dans toute la démarche, il construit, permet de construire, etc. Bon. Donc ça, c'était notre premier obstacle. Et donc le deuxième, comme l'a dit Valérie, c'est que quand on a demandé un agrément en logement social, on pensait naïvement que ça allait être un peu automatique. Et on nous a dit, ah ben non, parce qu'on en a pas, on a une enveloppe par an et par, pour le département, et qu'on a des zones tendues, et que donc c'est que dans ces zones-là qu'on a attribué des logements sociaux. Et de toute façon, faire du logement social à la campagne, c'est, si c'est des gens qui ont des difficultés, ça va les enterrer, ils seront loin du travail, ils seront loin de tout, etc. J'avais beau leur dire que quand ils viennent habiter chez nous, bah, le chauffage ne leur coûte rien parce qu'ils chauffent au bois et que nous, ils prennent du bois sur les terrains communaux. Et ça, c'est quand même une sacrée économie, hein, de ne pas payer son chauffage. Qu'ils peuvent cultiver un bout de jardin, qu'ils peuvent avoir 3 poules, que quand ils viennent à la mairie demander de l'aide, et bah, ils sont écoutés plus que dans une banlieue où les services sociaux sont saturés. Donc on avait beau argumenter tout ça, ben non. Donc effectivement, on a dû faire tout un cheminement, un travail de pression politique, en fait, par rapport à notre conseiller général, le conseiller général, le président du conseil général, notre député, tout ça. Et bon, on a fini, et c'est aussi grâce au fait qu'on était soutenu par la Fondation de France, qui quand même donne un peu crédibilité à la chose, qu'on a fini par obtenir du préfet qui l'impose à ses services de nous donner.
Après, quand on a déposé le permis de construire, bon, je passe rapidement sur tous ces petits obstacles, enfin, c'est pour vous donner une idée, ça nous a été refusé dans un premier temps, parce que c'est la commune chez nous qui gère son réseau d'eau potable, et on capte des sources dans la montagne, qui sont, où on a l'eau peut-être la plus pure de France, hein, puisqu'il n'y a vraiment pas d'usine, ni de culture industrielle à une dizaine de kilomètres, mais de temps en temps, il y a 3 microbes, parce que c'est normal, dans la nature, il y a quelques microbes. Bon. Et donc, l'ARS, l'agence de santé, n'est pas contente, parce que la norme dans l'eau potable, c'est 0 microbe. Et donc, et nous, ça faisait longtemps qu'ils nous disaient, ouais, il faut mettre une station de chloration pour mettre de l'eau de Javel dans l'eau. Et nous, on disait non, nous, on a une eau pure, et 3 microbes, ça ne nous rend pas malade. On a sur la commune des gens qui boivent cette eau et qui ont vécu jusqu'à 100 ans, et qui, à 90 ans, ramassaient encore leur châtaigne, faisaient encore leur jardin. Et donc, non, l'eau n'est pas... Enfin, ouais. Et bien, ils nous ont refusé le permis en disant, l'eau n'est pas toujours potable, donc la sécurité publique n'est pas assurée, donc pas le permis. Donc, on a été obligé de mettre une station de chloration. Et il y a un vieux du pays qui m'a dit, nous, on n'a jamais été malade, mais maintenant que tu vas nous mettre ça, on va être malade. Pour le pauvre vivant, il va se retourner dans sa tombe. Mais bon. Enfin bon, voilà, un petit genre d'obstacle. Il fallait aussi créer une réserve incendie, parce que maintenant, enfin, je ne sais pas si c'est le cas dans le département, mais nous, à moins de 200 mètres de toutes les maisons, il faut qu'il y ait une réserve de au moins 60 mètres cubes. Même à l'époque, c'était 120 mètres cubes. Donc on a dû construire une réserve 120 mètres cubes pour avoir le permis. Après, on a fini par avoir le permis. Pour les financements, ça a été compliqué, long. Comme l'a dit Patrick, au moment où on avait enfin l'accord de la Caisse des dépôts pour l'emprunt, et ils nous ont dit « Ah oui, mais il faut une caution. » Donc il a fallu aller voir le département, etc. Et nous, le chantier avait commencé, on n'avait pas de sous de la caisse. Enfin bon, voilà. Il y a eu beaucoup de... Ça a été un parcours du combattant. Mais bon, on a toujours tenu. Et c'est vrai que bon, la Fondation de France et puis la dynamique qu'on avait avec l'architecte, etc., bah, ça a fait qu'on a tenu le coup, quoi, et qu'on a fini par y arriver. Et bah, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais sur le menuisier qui a fait son atelier dans son logement, bah, finalement, il est parti parce que sa copine, on ne sait pas, avec sa copine, il est reparti en Bretagne, lui, mais... Et ben, on a trouvé un locataire qui était très content d'avoir un atelier avec son logement. Et finalement, voilà, c'est très bien un logement social où il y a le logement et l'atelier, ben c'est vachement bien, il y a des tas de gens qui s'intéressent.
Est-ce que tu disais, Patrick, aussi sur le couple qui voulait avoir son jacuzzi?
Ah oui, ça aussi, c'est... Parce qu'on avait un couple, c'était des artistes, hein, bon, qui rêvaient d'avoir un petit jacuzzi dans leur logement. Et donc, dans les plans, on avait prévu...
On a mis le tuyau et le robinet.
On a mis tout ce qu'il fallait pour qu'ils aient leur... Et à la DDT, donc Direction départementale des territoires, c'est ceux qui instruisent les permis, mais qui instruisent aussi les agréments, logement social, etc. Ils ont dit, quoi ? Un jacuzzi, mais dans un logement social ? Ben enfin, un logement social, on ne se paye pas un jacuzzi. Le logement social, c'est pour les pauvres, et puis il faut qu'ils se démerdent avec une cuisine, enfin, voilà, ça fait partie des choses. Ben, nous, on leur a mis la possibilité d'avoir un jacuzzi, et puis...
Ils sont partis, on a enlevé le tuyau. Tu pourrais parler de ce que tu disais, que ça ne coûte rien ?
Alors...
Les loyers, enfin...
Oui, alors, l'aspect financier, il faut quand même que la commune mette de l'argent au départ. Parce que, bon, il y a des subventions, enfin, il y avait à l'époque, il y en a peut-être moins maintenant, ça dépend des régions, ça dépend des départements. Nous, on a quand même été assez bien aidés par le département et la région. Je ne sais plus à quelle hauteur, sur la première fois. Et, bon, l'État, alors il faut savoir que l'État, lui, n'aide pas. Hein. Il y avait une petite subvention qui, à l'époque, je crois, était de 7000 euros par logement. Donc, vous voyez, pour un logement qui en coûte 160 ou 200, ça, c'est autant dire rien. Et en plus, l'État nous fait quand même payer 5% de TVA. Donc en fait, il nous verse une petite subvention qu'il récupère par le biais de la TVA. Donc ça, le logement social ne coûte pas un centime à l'État. Et quand j'entends les politiques à la radio dire « Ouais, on fait du logement social », en fait, c'est du... Voilà, c'est du faux. Et donc, après, la banque qui prête, alors ça peut être le Crédit Foncier, le plus intéressant, c'est quand même la Caisse des dépôts et consignations, elle prête à des taux très intéressants, mais elle est un peu exigeante, c'est-à-dire qu'elle exige que le montant des loyers soit sensiblement supérieur à l'annuité dans le logement, de façon à être sûr qu'avec les loyers, la commune pourra rembourser, et qu'en plus, même, il reste une petite marge pour l'entretien, le fonctionnement, etc. Donc, en fait, la commune met de l'argent au départ, mais petit à petit, elle récupère cet argent, puisque chaque année, les loyers font plus que payer l'emprunt. Donc, à chaque fois, elle récupère un peu plus, bon, évidemment, les taxes d'habitation, etc. Et puis, le fonctionnement général de la commune, l'augmentation du nombre d'habitants, ça nous augmente notre dotation globale de fonctionnement, les recettes de la commune. Voilà. Donc, en fait, à long terme, c'est un investissement même intéressant financièrement pour la commune. Nous, sur Beaumont, le montant des loyers, la recette des loyers est supérieur à la recette des impôts. C'est-à-dire que dans notre budget, les loyers et les impôts, ça rapporte pareil. Alors évidemment, pour les loyers, il y a pour l'instant en face des emprunts à rembourser, mais on a des logements où les emprunts sont remboursés déjà depuis longtemps et où ça fait. Il y a de l'entretien, il y a de la préparation, mais enfin, c'est quand même une recette à terme pour la commune. C'est un investissement au départ, mais petit à petit, ça se retrouve aussi et financièrement, pas seulement humainement.
À vous.
Oui, si vous avez des questions.
On n'arrête pas de... Ça marche pas ? Ah si. Dès qu'on fait quelque chose, on modélise. Et dès qu'on modélise, on fait une circulaire et après, tout le monde doit faire la même chose. Et donc là, je suis chargé... Bon, ça a été un peu vite. Dans la preuve par 7, qui est de prendre 7 échelles et de traiter de sujets qui n'ont peut-être plus lieu d'être traités comme ils l'étaient avant. Et donc, sur les écoquartiers, le ministère de la cohésion des territoires fait un bilan un peu négatif sur les écoquartiers tels qu'ils ont été construits. Le premier, c'est d'avoir isolé justement l'écoquartier nouvellement construit du reste de la ville, comme si on pouvait faire un petit Éden séparé du reste. Donc c'est de dire, s'il y a écoquartier, il doit concerner les gens qui l'habitent, mais il doit permettre aux gens qui habitent autour de comprendre que c'est un acte de la collectivité de construire cet écoquartier et que même par rayonnement, ça devrait susciter parmi les riverains un nouveau comportement pour les voitures, par exemple, pour le chauffage et ainsi de suite. Mais l'autre chose, c'est de se rendre compte, si vous voulez, que le réchauffement climatique aujourd'hui est plus une crise sociale qu'une crise climatique. On peut dire que le réchauffement climatique va donc perturber énormément de choses, dont la migration, les déplacements de population de fait par le réchauffement climatique, mais peut-être même par des comportements sociaux. Et donc, peut-être que la première clé qu'on devrait faire rentrer dans un écoquartier, c'est le social. C'est peut-être que l'environnement, c'est le social. Et l'environnement, ça n'est pas que régler des problèmes d'économie d'énergie ou de réfléchir sur un autre rapport à la nature. Et donc, on pourrait dire que c'est Félix Guattari qui disait ça. En fin de compte, l'écologie, ça s'appelle donc les trois écologies chez lui. Il y a l'écologie sociale, l'écologie culturelle et l'écologie environnementale. Et jusqu'à maintenant, on a surtout traité l'environnemental dans les écoquartiers. Et donc, en effet, l'idéal, ce serait que l'expérience que je mène sur le territoire français, la preuve par 7, si Rayane et Montjustin rentrent dans cette échelle d'un bourg et d'un village, ça serait qu'on réfléchisse justement sur une autre façon de regarder l'écologie. Et donc, j'adhère totalement, ça fait 40 ans que je fais ça. La preuve, il y a un label qui s'appelle Haute Qualité Environnementale, HQE, et depuis très longtemps, je mets dans toutes les lettres HQH, et les gens barrent en disant, vous avez fait une erreur, c'est un E, et je dis à chaque fois, non, l'écologie, c'est une haute qualité humaine. Donc, c'est le H de humain avant le E de environnemental. Donc, c'est oui, mais ce qui est très compliqué, parce que c'est facile à dire et c'est très dur à faire. Donc, il faut accepter, au même titre, qu'à un moment donné, on désigne des élus qui gèrent la collectivité, parce que c'est ça le but de l'élection en démocratie. Il y a une alternance, on remet en cause le mandat, mais on délègue par un mandat. Et donc, il faudrait accepter, si vous voulez, qu'à un moment donné, un projet ne puisse pas être porté que par les élus, parce que par des techniciens, parce que ça ne suffit pas, et que, opposé à ça, l'ensemble de la population. On pourrait tout à fait dire, il y a parmi nous des gens qui sont capables, sans s'engager dans un mandat d'élu, capables de s'engager pour construire un projet commun nécessaire à la collectivité. Ce que j'appelle une délégation, une délégation momentanée de gens qui le font. Et donc, c'est assez compliqué, parce qu'il faut accepter qu'on ne peut pas avoir une parole de plaignant, comme on dit, où tout le monde réclame. Mais on peut avoir à un moment donné, comme on l'a fait sur les logements, on peut avoir une partie d'une population qui a un point de vue sur le logement social, à qui on fait confiance de programmer le logement qu'on va construire, parce qu'il est contrôlé par des élus qui ont la charge du bien commun. Donc, c'est pour ça que moi, je n'aime pas la démocratie participative, je le dis franchement, parce que pour moi, c'est une démocratie bavarde, elle ne fait que des mécontents, parce que tout le monde exprime un point de vue et n'agissant pas, il ne retrouve pas dans ce qu'il a dit. Moi, j'aime la démocratie active par délégation. Et donc, quelqu'un pourrait dire, en dehors, donc, je pense que j'en discutais tout à l'heure avec Marie, puisque à Montjustin, il n'y aura peut-être pas tout le monde de représentés ou éventuellement assez de représentants. On pourrait tout à fait avoir des représentants élus et à côté, un collectif qui prendrait réellement ses responsabilités pour un objet particulier, en disant, mais sous la conduite des élus. Je pense que là, on pourrait expérimenter parce que c'est justement dans la petite échelle, la vôtre, là, qui est peut-être celle qui est abandonnée, qu'on peut vérifier si, en effet, la démocratie est améliorable, vivable, voire sauvable, parce que elle est sacrément atteinte à la grande échelle, dans la grande échelle. Et donc, c'est une échelle démocratique, le village. C'est la première échelle, on en parlait avec Pascal tout à l'heure, c'est un reste de la Révolution française. Il y a 36 500 communes en France. On dit tout le temps que c'est autant, enfin c'est la moitié de l'ensemble des communes de l'Europe, et on voudrait nous faire supprimer nos communes, alors que peut-être c'est le dernier rempart d'une volonté publique. Enfin, donc c'est ça qu'on doit.
qu'au-delà de l'école, c'est un exemple de conséquences directes ou indirectes de l'arrivée de nouveaux habitants, l'arrivée de jeunes ou moins jeunes dans votre village. Pascal, tu m'en as déjà parlé de quelques-uns, et voilà, juste cette question-là.
Au-delà de l'école, ça fait qu'il y a des enfants, et que quand il y a des fêtes à Beaumont, eh ben, on voit des enfants. Et il y a un maire d'une commune voisine qui est venu une fois à une fête qu'il y avait à Beaumont. Il m'a dit, mais alors chez toi, il y a plein d'enfants, c'est vrai. Alors que dans sa commune, eh ben, voilà, il n'y a plus beaucoup d'enfants, parce qu'il n'y a pas de jeunes, etc. Et bon, ben, rien que ça, c'est quelque chose. Quoi, hein. C'est vrai que nous, on fait la commune, chaque année, on offre aux aînés, c'est-à-dire à tous ceux qui ont plus de 70 ans, on offre un repas, et donc un repas qu'on fait ensemble. Et au dessert, on fait venir les enfants de l'école. Ben, c'est toujours un moment extraordinaire où il y a tous les vieux de la commune et puis tous les gamins qui circulent entre les tables et ils disent bonjour. Voilà, ça fait, c'est de la vie, quoi. Hein, c'est de la vie en plus. Et puis bon, donc les parents, en plus des gamins, ben, il y a des parents qui ont 30, 40 ans et qui sont encore plein de dynamisme, plein d'activité, qui donnent un coup de main au vieux qui est à côté, qui n'arrive plus à rentrer son bois. Enfin voilà, c'est de la vie, quoi.
Et au niveau des prochaines élections, mais raconte qu'il y a quand même eu, pas que des gens jeunes, hein, puisqu'il y a un logement partagé.
Oui, au départ, on avait un peu l'idée de ne pas sélectionner que des jeunes. Et donc on avait prévu effectivement dans un logement, il devait y avoir dans une maison, il devait y avoir deux logements, donc avec un en bas pour une personne âgée. Et puis bon, finalement ça ne s'est pas fait, mais ça c'était quand même dans l'idée au départ.
Ça
aussi,
s'est pas fait. On avait une candidate bien sûr, hein, mais elle est fragile psychologiquement et elle n'a pas pu donner suite à ce projet. Voilà. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé. Mais pour répondre, Mathias, je crois, non seulement on a des enfants pour l'école, mais un petit peu plus loin que notre village, parce qu'on va peut-être pas regarder simplement à notre porte, on a une crèche intercommunale, et donc où il y a des enfants de Beaumont qui vont à la. On a deux crèches, même à deux endroits, dans deux vallées, et donc les enfants vont à la crèche. Il y a des centres de loisirs, les enfants vont là-bas aussi, et donc ça apporte de la vie sur tout le territoire. Hein.
Mais au niveau du turnover, pour citer votre exemple, au niveau municipal, est-ce qu'il y a des jeunes qui se sont impliqués dans les logements qui aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui s'est créé?
Oui, on a des jeunes qui vont être sur la prochaine liste.
Oui. Parce que c'est vrai que j'ai observé que les jeunes, actuellement, souvent, ils sont pas tellement intéressés par la chose publique. Moi, j'ai des enfants qui sont très conscients de tous les problèmes de la planète, de la société, etc. Mais on a un peu le sentiment que devant la mondialisation, ils se disent, moi tout seul, je peux rien faire. Donc ils se replient un peu sur eux-mêmes, sur des réseaux avec les copains, même s'ils ont des valeurs et puis ils s'imposent certaines façons de faire. Mais ils n'ont plus confiance dans la chose publique. Et je vois des communes autour de moi où il n'y a aucun jeune qui veut s'engager au conseil municipal. Et ben, j'ai remarqué que sur Beaumont, on a des jeunes qui vont s'engager. Et justement parce qu'ils m'ont dit, mais oui, moi, on a vu que vous avez fait des choses bien. Parce que, bon, on a parlé des logements, mais on a aussi, par exemple, acheté une voiture électrique qu'on a mis à disposition de la population avec un système partagé, autogéré. On a aussi acheté un lave-linge, par exemple, qu'on a mis à disposition de ceux qui n'en ont pas, parce qu'on s'est aperçu que sur la commune, il n'y en avait pas, soit qu'ils n'avaient pas assez de pression d'eau, soit qu'ils n'avaient pas d'électricité. Et bien voilà, ils ont un lave-linge communal. Bon, c'est rien du tout, mais... c'est des petites choses qui changent la vie, quoi. Et du coup, les jeunes, ils se disent, tiens, une petite commune de 100 habitants, elle peut quand même faire des choses, et du coup, ça les motive pour rentrer dans la vie publique.
Vous parlez de toute la dimension économique que vous avez impliquée, qui est aussi l'affaire communale.
Oui, bon, tu vois. va pas se raconter tout ce qu'on a fait à Beaumont.
On en a tellement fait depuis 20 ans.
Oui, on a, bon, c'est sûr qu'il y a, on a, il y a toute une dynamique globale qui s'est instituée petit à petit. Bon, c'est vrai qu'on a récupéré des biens vacants, c'est des terres, qui, des, terres des ruines qui n'appartiennent plus à personne parce que les successions n'ont pas été faites. Donc on a récupéré des biens vacants donc, avec lesquels on a pu créer une ferme communale, donc ça a permis à une famille de s'installer, etc. On a fait intervenir deux fois la SAFER pour qu'elle préempte sur des maisons qui allaient se vendre avec des terres qui allaient devenir des résidences secondaires. Ça a permis d'installer des agriculteurs. On a favorisé bon, et ce qui fait qu'on a pas mal d'agriculteurs sur la commune. Bon, à la fois, ça fait de l'entretien de l'espace, ça fait de la lutte contre l'incendie, ça fait de la vie, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui se crée comme ça. Et bon, par rapport aussi à ce que disait madame, là, d'associer la population à un projet, je ne l'ai pas précisé, mais nous, on a fait ça aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait 3 réunions publiques, je crois, un peu au fur et à mesure de l'avancement du projet. On a invité tous les habitants de Beaumont à venir parler de ce projet d'habitat. Et puis, comme je l'ai dit, les habitants pouvaient venir aux réunions de chantier, venir voir le chantier. Et bon, même si au début, il y avait quelques réticences, comme je l'ai dit, bah, je pense qu'aujourd'hui, pratiquement tous les habitants de Beaumont sont très fiers de cette réalisation. D'autant plus que ça nous a donné un peu une notoriété nationale, parce qu'on a eu des articles dans toutes les revues d'architecture. J'ai été invité à des tas de colloques, dans les universités, tout ça, pour raconter cette histoire. Et donc voilà, finalement, les habitants de Beaumont, bah, ils sont fiers de ce qu'on a fait tous ensemble.
Bonsoir.
Je vais faire le grand écart, parce que dans la preuve par 7, on a donc défini justement la plus petite échelle, qui est donc une commune de 50 habitants. Voilà. En dessous, c'est difficile à être considéré comme une commune possible dans sa représentation. Et j'ai pris la plus grande échelle, le département d'outre-mer, parce que ça pose un problème. Ce sont les mêmes lois, avec quelques aménagements en général, mais quand même ce sont les lois générales qui sont appliquées sur les départements d'outre-mer. Alors, par exemple, admettons, il est appliqué l'isolation sur un bâtiment à Mayotte. Il faut que le bâtiment soit léger et ventilé. et un bâtiment à Lille, il faut qu'il soit épais et étanche. Alors du coup, j'ai pris ma yacht et pris un sujet qui est très compliqué, parce que j'y suis allé et on m'a dit, mais de toute façon, personne ne veut travailler à ma yacht. Voilà, c'est impossible, on ne peut rien faire à ma yacht. Et donc, en me promenant sur le territoire de Mayotte avec des Mahorais qui m'ont fait visiter, j'ai rencontré donc une commune de 6000 habitants qui me dit, voilà, nous on a un problème, c'est qu'on a 2500 maisons qui ont été construites illégalement, qui ont été donc autoconstruites. Et puisque c'est la République, est-ce que je peux alimenter en eau et assainir les 2500 maisons qui ont été construites, parce que cette année, on n'a eu que 5 permis de construire déposés. Donc, est-ce que la République française ne reconnaît que les 5 logements construits avec permis de construire, ou est-ce qu'elle reconnaît l'ensemble des logements? Alors, j'ai développé une théorie complètement débile, mais elle a marché. J'ai dit, mais comment fait-on quand on a une ville historique? On fait un plan de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on relève l'état des lieux. On relève l'état des lieux et éventuellement même on le fige. On dit, ben voilà, et on ne pourra plus rien faire d'autre que comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je dis, on va faire un état des lieux des 2495 maisons construites illégalement et on va donc, de ce plan de sauvegarde, l'intégrer dans le PLU. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'état des lieux qui fait le PLU. Et on va voir si l'autoconstruction était une nécessité à Mayotte ou est-ce qu'un organisme HLM aurait pu construire les 2500. Parce que l'office, il ne peut pas construire 3 logements à Beaumont, mais il ne peut pas non plus construire 2500 logements à Mayotte, il n'est pas équipé pour. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. Le petit, on ne peut pas le traiter, et le grand massif, on ne peut pas le traiter. Donc on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois, il y a des lois ou des applications qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas adaptées à la situation. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire l'état des lieux de ce que vous êtes, donc village construit, l'état de la loi telle qu'on l'impose, parce qu'il y a des communes, on pourrait tout à fait dire, eh bien, j'impose à Montjustin la construction, conformément à la loi SRU, X logements sociaux. Vous voyez ? Et pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi d'un seul coup un petit village ne reçoit pas une injonction de l'État ? On dit qu'on ne le fait pas. Donc vous devriez faire l'état des lieux de ce que vous êtes, et moi je crois que tout est négociable. Absolument tout est négociable. Parce qu'on est dans une situation à l'heure actuelle où la situation elle est bloquée, et on tient des discours généraux surtout, la situation elle est bloquée, et on ne peut la débloquer que quand on révèle l'état des lieux. L'état des lieux, c'est le projet. Et donc vous devriez là en faire un cas de jurisprudence. On ne peut pas densifier plus, par exemple, et on ne peut pas détruire ce que l'on a, et pourtant on n'atteint pas l'objectif. Vous voyez, là, moi je travaille avec un organisme HLM qui gère vachement bien. Il a 8000 logements. Et on lui dit qu'il faut que tu en aies 12000. Si on le passe à 12000, il meurt. Il n'est pas fait pour 12000. Alors, moi j'ai demandé, quelle structure faut-il pour 12000? On a dit, on accepte les coopératives. Donc pour faire chier, on va jumeler l'organisme de 8000 logements avec Mayotte. C'est con, c'est Gennevilliers avec Mayotte. Parce que c'est pas interdit, ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une holding de 12000. Et donc, on va faire des filiales à l'intérieur de la holding. Faut regarder comment le grand capital se construit.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, en ce qui concerne en fait le projet de Réan, effectivement, c'est un projet qui remonte à peu près 3 ans, en fait, quand l'opportunité s'est présentée d'acquérir ce terrain que les Réanais localisent, en fait. Hein, on ne va pas refaire tout le projet, mais bon. Donc, quand on a acquis ce terrain, en fait, on a candidaté dans le même temps, en fait, à une opération qu'on appelle la manifestation d'intérêt autour des écoquartiers. Donc, effectivement, pour rentrer dans cette opération-là, on a monté un dossier, donc on a étayé d'un projet qui est celui qui est aujourd'hui, autour duquel aujourd'hui on continue de travailler, en fait. Et donc, dans ce projet-là, on est allé candidater pour obtenir des financements, on va dire, pour réaliser les études nécessaires à rendre viable ce projet. Donc, on est parti, nous, élus, du diagnostic qui a été fait autour du PADD, des besoins qu'on a identifiés comme étant ceux de la commune aujourd'hui. Donc, je tire un peu le fil, pardon, sinon je me couche. Voilà. Merci. Donc, à partir des éléments diagnostiques qui avaient été faits et des carences qu'on avait identifiées sur lesquelles on voulait intervenir en tant que pouvoir public, en fait, hein, et en tant qu'aussi porteur d'une politique qui est la nôtre, avec des valeurs de gauche. Donc, sur ce terrain-là, en fait, on a imaginé, conceptualisé un ensemble d'éléments à haute qualité environnementale, effectivement, avec donc un plus à travers, en fait, du logement social et une mixité fonctionnelle. Parce qu'effectivement, dans ce projet, en plus d'y mettre du logement, on a réfléchi à répondre à un autre besoin, à une autre carence qui était identifiée sur la commune, à travers, en fait, les manques d'espace pour de l'activité, notamment de l'activité artisanale. Alors, aujourd'hui, pour les Réanais qui sont un peu en connaissance des dossiers, on est aussi dans le cadre de la... on mène depuis quelques années déjà, en fait, la révision du PLU. Donc, notre document d'urbanisme, aujourd'hui, il permet de construire encore sur 29 hectares autour de la commune et de venir empiéter sur des zones, Patrick l'a évoqué tout à l'heure, en fait, sur des zones, notamment des zones boisées naturelles ou des zones agricoles. Demain, les lois, et c'est un bienfait, ne nous le permettront plus. Donc, de 29 hectares constructibles aujourd'hui, on va passer quasiment à 11 hectares constructibles. Donc, ça va nécessiter, si on veut garder une dynamique sur village, et quand je dis une dynamique, ça englobe aussi une dynamique de vie, et dans vie, il y a effectivement habiter, il y a se loger, mais il y a aussi travailler sous différentes formes, en fait. Donc, si on veut continuer à conserver ce dynamisme-là, et continuer à ce que Réan soit ce village un peu atypique, avec une population qui vit et qui travaille à l'extérieur pour certains, mais qui travaille aussi à l'intérieur pour d'autres, parce qu'on a la chance d'avoir, par exemple, des artisans, on a la chance d'avoir des intermittents du spectacle, on a toute une activité, en fait, qui n'est pas une activité forcément tertiaire. Hein. Donc, si on veut avoir la possibilité de garder ce dynamisme-là, il faut qu'on crée les conditions de le maintenir, ce dynamisme. Donc, à travers ce projet-là, en fait, effectivement, on a envisagé de répondre à ces situations de carence identifiées en proposant de réaliser ce projet-là, donc mixité fonctionnelle, en fait, hein, effectivement, mixer habiter, mixer travailler, avec ce plus que je tiens quand même à mettre en avant sur ce projet-là, en fait, qui est d'être exigeant en matière de qualité environnementale, en matière d'intégration, en matière de comment est-ce qu'on ne fait pas qu'un nouveau quartier, comme le dit effectivement Patrick. On a encore travaillé tout l'après-midi avec l'équipe des bureaux d'études, et Patrick du coup, c'est partenaire de la preuve par 7 aussi, en fait. Comment est-ce qu'en fait, ça n'est pas un quartier isolé, mais c'est pas une adjonction dans le village, c'est le village, en fait. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on crée des déplacements, des interactions avec ceux qui existent déjà, avec des projets futurs aussi, parce qu'effectivement, on parle de ce projet-là, mais il y a aussi d'autres projets sur la commune de Réan, en fait, hein, comme sur d'autres communes d'ailleurs. Mais tout ça, c'est ce qui crée justement ce lien avec ceux qui existent. Donc, dans le cadre de ce projet, il y a effectivement donc une partie de logement qu'on appelle logement social, qui là, pour le coup, est étiqueté effectivement logement social, une partie activité entrepreneuriale et artisanale, et tout ça sur le même lieu, avec bien sûr donc ces obligations qui sont celles que nous nous sommes astreintes, finalement. Hein. On n'était pas obligé de faire un éco-quartier, on pouvait simplement faire de la densité urbaine, de la création de logements, avec de la revente de parcelles, et puis on s'arrêtait là. Parce qu'au départ, le projet, entre guillemets, qui était tombé dans la sphère privée, en fait, c'était ça. C'était créer un lotissement, comme on le voit dans beaucoup de villes et villages, en fait. Un lotissement, c'est-à-dire un lieu d'habitation, mais pas forcément un lieu de vie. Donc l'idée, c'est celui-ci, c'est créer un lieu de vie dans un village, mais qu'il ne soit pas un lieu isolé et qui vivrait sur lui-même. Non. Donc, le projet, c'est celui-ci. Alors, on a travaillé en tant qu'élu, on est en responsabilité de travailler pour la commune, on a été élu pour ça, et de faire avancer les dossiers. On a fait la partie de notre travail, qui était celle-ci. Aujourd'hui, on est en phase de pré-projet, c'est-à-dire qu'en fait, pour les Réanais, vous le savez, on a transmis l'information à travers le bulletin municipal, notamment, particulièrement autour d'une lettre du maire, qui était dédié au projet d'urbanisme sur la commune, puisqu'on parle aujourd'hui de l'écoquartier, mais Patrick l'a rappelé tout à l'heure. Par exemple, on intervient aussi sur ce qu'on appelle l'îlot du château à travers la stratégie foncière. Et là, il s'agit en fait de rénover de l'ancien et de l'ancien très détérioré parce qu'on a reçu l'injonction de le faire et que c'est de la responsabilité du maire et du conseil municipal de s'affairer à cette tâche-là. Et on travaille aussi dans le même temps. C'est pour ça qu'on est assez, il me semble, assez pertinent en matière de logement sur Réan aujourd'hui. On travaille aussi sur le soutien à la réhabilitation de logements, le soutien au privé, hein, là on est sur le secteur privé, à travers un programme intercommunal qui s'appelle Rénovation du logement insalubre, en fait, et de l'habitat indigne. Donc là aussi, on est sur des opérations assez complètes, c'est-à-dire on rénove de l'ancien, on aide les propriétaires à rénover leur logement ancien. On a d'ailleurs là aussi, en complémentarité, un programme d'aide à la rénovation thermique avec les conseils d'un architecte du Parc du Grand mis à disposition gratuitement de la population. On fait de la rénovation plus lourde sur des bâtiments très détériorés sur lesquels personne n'était intervenu jusqu'à présent parce que justement, on se place en opérateur public parce que c'est très compliqué et techniquement et financièrement de venir accompagner ces projets-là. Donc, on réhabilite le centre ancien et dans le même temps, on travaille sur un nouvel aspect de comment habiter, comment vivre, en fait, sur de nouveaux espaces avec, du coup, cette valeur ajoutée qui est vraiment tout l'intérêt du projet aussi. Comment faire du logement social, comment faire de l'activité avec des obligations, des contraintes que nous sommes nous-mêmes infligées autour de l'environnement. Voilà, donc le projet sera mis, le projet lui-même, c'est celui-ci. Ensuite, il va se décliner en plusieurs possibilités, en plusieurs scénarios, en fait, qui seront mis en exposition et pour lesquels les élus assureront des permanences. Hein, vous avez eu l'information, à partir du 5 février, pour une durée de 3 semaines, me semble-t-il, à la salle du conseil municipal. Donc, les élus seront présents pour répondre à vos questions, pour aborder les différents points du projet, pour entendre vos remarques, les prendre en considération et présenter les aspects techniques, parce que ce que j'entends, effectivement, c'est de l'inquiétude. On en a parlé parce qu'on a eu, particulièrement pour les habitants qui sont concernés, les voisins mitoyens de ce projet-là, on a eu une réunion de quartier il y a peu de temps. Le projet suscite des inquiétudes, ce qui est normal, ça se conçoit tout à fait. Quelque chose de nouveau, ça peut faire peur. Mais pour autant, notre rôle à nous, en tant qu'élus, en tant que pouvoir public et responsable de ce projet, c'est d'amener les choses au mieux pour le village. Voilà. Donc, ces craintes qui sont en partie justifiées, parce que tout ce qui est nouveau peut faire peur, hein, on l'a dit, l'étranger, la nouveauté, ça peut questionner, si ça ne fait pas peur, ça peut questionner, mais en tout cas, nos responsabilités sont celles-ci, ce sont celles d'accompagner le projet pour que ce soit une réussite et non pas un échec. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à votre question ou si je continue, parce que moi, je pourrais en parler des heures, mais peut-être qu'on va... Alors...
Oui. Thank you.
été décalé, effectivement, parce que sur la complexité du dossier technique fait qu'en fait, on a pris du retard et que donc, pour être au point, on a simplement décalé la réunion qui devait avoir lieu en décembre en février, en fait. Donc, c'est la fameuse exposition publique et la rencontre avec les élus. Donc, effectivement, comme le projet de Beaumont, finalement, en partie, là, on se rejoint encore en partie là-dessus, c'est qu'en fait, nous aussi, sur le projet de Réal, on a choisi les partenaires qui, en fait, allaient travailler avec nous sur ce projet. Alors, on a choisi le partenaire technique, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, mais on a aussi choisi, et c'est là, effectivement, toute la ressemblance avec le projet, on a choisi aussi de présenter, de partager le projet avec des partenaires identifiés, des futurs usagers, en fait, du projet. Voilà. Donc, on est un petit peu sur les mêmes similitudes. Alors, non pas qu'on a fait du clientélisme, c'est absolument pas ça. C'est simplement qu'en fait, c'est un projet d'éco-quartier et que donc, dans le mot éco-quartier, en fait, ça faisait écho à certains projets, à certaines attentes vis-à-vis des besoins de la population d'une manière générale, mais aussi effectivement on a parlé de l'activité économique, de l'activité artisanale de certaines personnes dans ce corps de métier-là. Et donc, on a essayé de valoriser au plus l'espace en répondant à des projets en attente et en leur proposant de venir s'intégrer à cette démarche-là, en fait. Donc, la démarche de la municipalité, ça a été de dire, voilà, on va avoir cet espace. Notre projet, c'est du coup de l'habitat et de l'activité. Vous avez un projet connu, identifié, parce que c'est à l'instant T, on monte un projet, justement, parce qu'on candidate, et on a besoin de savoir si vous vous engagez avec nous sur ce projet maintenant, même si effectivement ça prend 10 ans et que les partenaires ou les usagers peuvent changer, parce qu'effectivement, sur la réalité, au niveau administratif, au niveau d'un temps municipal, 10 ans, c'est court et long, mais c'est des délais auxquels on est habitué finalement, en termes d'attente et de réalisation, mais pour un particulier, pour des particuliers, pour des entreprises. Il n'y a pas eu d'appel à candidature en tant que tel.
Ça s'est venu vous voir en disant j'ai un projet de ma salaire payante.
Non. Non, absolument pas. Votre question porte en fait sur l'éco-hameau privé, en fait. Non. Alors ça, c'est par exemple le projet de ce qu'on appelle l'éco-hameau privé. Alors c'est peut-être pas le qualificatif idéal, mais l'idée c'était de la co-construction, en fait, avec un projet d'ensemble autour du logement écologique, par exemple. Voilà. Non, c'est des partenaires qui se sont en fait montés en société eux-mêmes, en fait. C'est pas la municipalité n'a pas fait d'appel à projet en disant en appelant les gens à venir de cette manière-là investir les lieux, en fait. La démarche n'a pas été celle-ci.
Les lieux qui ne sont pas encore réalisés puisque ce terrain est encore porté par une société de portage.
Alors, le terrain, en fait, a été. Mais c'est tout. Mais le terrain est propriété aujourd'hui de l'EPF PACA, donc l'établissement public foncier qui est un établissement public régional qui a pour vocation de venir aider les communes, en fait, à acquérir du foncier bâti ou non bâti afin de réaliser leur projet d'investissement et en dégageant justement les moyens financiers directs pour la construction et non pas en fait l'acquisition. Donc en fait le PFAK c'est un établissement qui nous a été entre guillemets mis à disposition par le biais de la communauté de communes, ce qui est un bien pour toutes les communes parce qu'effectivement ça permet d'engager des projets avant d'être propriétaire du terrain. C'est un montage qui existe dans d'autres communes et qui n'est pas, absolument pas sorti du chapeau sans.
Et qui correspond bien à l'état de sécurité financière de
Réal. Non, alors là, Madame Pasternak, je suis désolée, mais.
On ne va pas faire la réunion. On va pas faire la réunion publique de Réal.
Oui.
Ouais. On va peut-être alors, là, il y a des pizzas et un coup de.
Alors, juste simplement, il n'est pas question de la fragilité foncière de la commune de Réal. C'est une facilité pour toutes les communes de la communauté, pas particulièrement de Réal. Alors, je m'excuse, mais.
Voilà. Non, mais simplement, ce que je vous ai donné,
C'est la responsabilité. Alors, ça, je l'ai déjà dit.
Oui, oui.
Alors, c'est une démonstration qu'effectivement, quand on est élu, on est en responsabilité et que les responsables... Voilà. Et que on, quand on fait des choix, on est en mesure de les assumer et on va au bout de ces choix. Parce qu'on travaille pour un village et pas pour un quartier. Alors, du coup, je vous propose, parce que ça concerne apparemment Rayane et les opposants fermes à ce projet-là, de reprogrammer une réunion parce que mes collègues des autres communes voilà, me font savoir qu'ils ne se sentent pas concernés par par le débat actuel. Donc, je vous propose, messieurs, dames, de... Alors, je ne pense pas que Rayan soit une dictature à elle toute seule. Il ne me semble pas. Hein. Voilà, il ne me semble pas, mais bon.
Je parle justement, dans des termes comme la cité grecque. Monsieur Bouchard va bien comprendre ce que je dis. Ici, c'est une société, c'est une mini-société. Tout à l'heure, il a parlé du plus petit. Nous y voilà, nous sommes dans un petit village. Ce serait tellement facile de participer, d'avoir eu des réunions...
Mais il n'y a rien d'obscur. Vous avez eu tous dans vos boîtes aux lettres des documents sur cet éco-quartier. Vous allez avoir la possibilité d'avoir les documents.
Si je peux dire exactement, on cherche à savoir. C'est fumeux tout ça.
Non, absolument pas. Vous avez eu des réunions sur le sujet.
Je
comprends parce que ça fait un moment qu'on en parle. Je reprends rapidement les faits. Oui, on a effectivement, pour travailler sur le projet, parce que c'était un projet très orienté et qu'on voulait le...
Donc je propose que vous prévoyez
tout à fait ce que je voulais dire
et qu'on aille boire un coup. Alors moi, Patrick a envie de faire une petite
conclusion. Non, mais parce que en effet, quand on ne fait rien, il ne se passe rien. Quand on fait quelque chose, non mais quand on fait quelque chose, on le critique. Alors j'ai souvent des fois c'est un peu comme un hameçon, si vous voulez. J'ai enseigné pendant longtemps dans une école d'architecture et je ne savais pas comment recruter, par quels critères on allait choisir les gens qui allaient rentrer dans cette école. Alors, une année, j'ai pris, mettons, les meilleurs bacs S, par exemple, et puis on m'a reproché. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire la parité, moitié fille, moitié homme. Après, j'ai dit, tiens, je vais prendre que des bacs littéraires pour voir si ça a une incidence. Puis j'en avais tellement marre, un jour, j'ai dit, allez, je prends celui qui arrive le premier inscrit. Je me suis dit, en fin de compte, c'est vrai, c'est la République, c'est un enseignement public, et ben, il y a un jour d'ouverture, le premier inscrit. Et c'est assez drôle, le fait de plus mettre de critères, voyez, avant, machin et tout, de dire, le premier inscrit, il a le droit d'être étudiant dans cette école et on le jugera pendant sa scolarité. Et donc, moi, j'ai déjà fait, parce que j'ai dirigé un service dans une grande ville, j'ai déjà fait éventuellement, non pas quelque chose, voyez, pour retourner un comportement, mais de dire, on pourrait faire une réunion publique en disant, tiens, moi, en tant qu'élu, j'ai choisi ça, parce que je suis en responsabilité, ce que dit Claire, et maintenant, j'ai choisi ça parce que quelqu'un est venu spontanément me le demander, et en fin de compte, il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent s'installer à Riyad. Et déjà, mettez ça à l'épreuve, vous allez voir que la personne, c'est pas sûr que ça marche, parce qu'elle n'aura pas son crédit, c'est pas sûr que son idée soit bonne, c'est pas sûr que son idée soit compatible avec celle qui est à côté. Et donc, il faut à un moment donné dire, je commence avec les 5 premiers, je mets en route la machine, je juge à l'acte, et en effet, je suis d'accord, il faut en parler. Il ne faut pas du tout le faire de manière cachée. Non, mais attendez, il ne faut pas le faire de manière cachée, mais faut-il le faire avec un sujet? On ne peut pas faire un débat sans sujet. Et pour qu'il y ait un sujet, il faut que quelqu'un ait proposé quelque chose. Voilà. Et donc, quand on est élu, on propose. Après, on vérifie. Et vous verrez, nous, à Beaumont, si on avait dit, mais alors, à un moment donné, on baissait les bras. On dit, tous ceux avec qui on avait fait des réunions participatives pour parler du logement social, ils en avaient ras-le-bol, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'entendre qu'on allait mettre 3 ans pour avoir l'autorisation. Et donc, ils disaient, mais attends, vous nous avez bananés. Et on dit, oui, d'accord, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Si vous voulez partir, partez. Vous verrez que là, si vous mettez en place l'éco-quartier, à l'endroit où il est, avec des gens qui spontanément veulent y habiter, vous aurez la vraie vie qui va s'installer. C'est un rapport de force, la vie.
Après, ça devient une réunion.
Non, de femmes, là. Hein. C'est l'ancienne élue.
Ah,
c'est l'ancienne maire.
Celle qui est devant.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux?
Je vais dire bonjour à Jean.
C'est qui Jean? Je peux lui parler?
Mais oui.
Oui, je peux. Ah bon?
Jean
dit oui ou non.
Non, vous connaissez Jean-Marie Laquette?
Non.
Ah, parce qu'il est architecte aussi.
Mais moi, je ne suis pas architecte.
Vous n'êtes pas architecte, vous avez travaillé dans une école d'architecture. Vous n'êtes pas architecte.
Les médecins ne sont pas malades.
Oui. Non, mais bon, en fait, voilà, l'inquiétude. La question qu'on se pose, c'est comment, parce qu'apparemment,
ça marchait ou pas?